On se transporte en Russie. Mystérieux pays qu'est la Russie, parce que ben il s'y tient la Coupe du monde de soccer présentement, et il se trouve qu'un jeune homme de Limoilou, un fan de soccer, qui est présentement en Russie, et on le rejoint par téléphone. Il s'appelle Maxime Veillette. Bonjour Maxime.
Bonjour, ça va bien? Bon matin.
Oui, ça va super bien. Quel temps il fait en Russie ici, Fellette?
C'est la température.
Ouais.
Il fait super chaud. On a commencé notre périple. Moi, j'étais en Asie centrale. Mon ami est venu me rejoindre à Sochi, ville qui a eu les Olympiques d'hiver en 2014. On tournait dans le 35 degrés, très humide. Et en ce moment, on est à Rostov sur le Don, un peu plus au nord, près de la mer d'Azov, mais encore près de la mer Noire. Il fait encore dans le 35 très humide. Mais hier, on a eu un orage qui nous a un peu libérés, mais c'est très, très chaud. Très, très chaud jusqu'à maintenant.
OK. On va parler un peu de ton trip en Russie. Évidemment, on va parler de soccer puis de la Coupe du Monde. Mais tu me dis que t'es passé par Sochi. Qu'est-ce qui reste des Olympiques à part les installations, je suppose? Mais ça a l'air de quoi là-bas?
Je peux faire un parallèle. J'ai eu la chance aussi d'aller à Gangneung, qui était la ville qui avait eu les Jeux olympiques de Pyeongchang. Je suis allé 3 semaines après, et puis tout était détruit, vraiment détruit. L'asphalte, tout était vraiment en mauvais état. Et là, on a eu la chance d'aller au stade olympique Fish. Et puis, c'est particulier parce qu'il n'y a jamais eu d'épreuve olympique à Sochi. Tout était dans les montagnes ou à Adler, qui est à 30 km au sud de Sochi, qui est à la frontière géorgienne. Donc, ils ont construit dans un marécage un site pour les Olympiques avec plusieurs arénas. Et puis, le long piste est devenu l'académie de tennis. Et puis, moi, je suis allé un jour de match. Puis, je suis aussi allé quand il n'y avait pas de match. Et même à ça, il y avait beaucoup de personnes parce que ça reste une destination touristique très prisée pour les Russes. Donc, les Russes vont là en vacances, puis c'est une grande fierté pour eux. Donc, il y a beaucoup de gens quand même autour du stade olympique et des installations. J'étais très, très surpris. Je pensais arriver là, avoir absolument rien. Mais finalement, beaucoup de gens y vont pour voir les sites, puis ils sont beaucoup utilisés pour le sport.
OK, mais là, dis-moi donc.
C'est immense.
Dis-moi donc.
Immense.
Toi, tu t'es parti en voyage là, comme ça pour des raisons X, puis tu t'es dit, il y a du soccer, donc je vais y aller. Ou tu es allé spécifiquement en Asie, en Russie pour la Coupe du Monde?
Il y a un an, j'étais sur une terrasse à Limoilou avec un ami après un match de soccer, puis on s'est dit, bon, il faut nous trouver un plan pour les prochaines vacances. J'avais fait en 2016 l'Euro avec mon ami Louis-Thomas Drapeau. J'ai beaucoup, beaucoup aimé, des beaux souvenirs. Puis on s'est dit, ben moi, j'étais déjà allé en Russie il y a 10 ans. Un mois, j'avais fait le Transsibérien, et là, moi, je me disais, c'est la bonne occasion pour retourner en Russie, voir comment le pays a changé. Mon ami a dit, je suis partant. Donc, on s'est levé très, très tôt pendant tout l'hiver. Il y a 5 phases pour les billets. 5 phases, comme il y a des tirages au sort, puis aussi, il faut se mettre dans la ligne par Internet. On a réussi à chaque phase, on a fait nos devoirs, et on a eu des billets pour plusieurs matchs. Donc, on a organisé notre périple selon les billets qu'on a obtenus. Donc, on a obtenu des billets pour Sochi, Rostov. On s'en va à Volgograd, qui est l'anciennement Stalingrad ce soir. Okay. Et ensuite, on a d'autres amis qui viennent nous rejoindre vers Kazan, Samara, Nijni Novgorod. Et on s'est offert le luxe d'une demi-finale à Saint-Pétersbourg. Okay. On n'a pas de billets pour la finale à Moscou, mais l'atmosphère risque d'être vraiment excellente à Moscou. Donc, on sera quand même... On sera quand même sur les lieux là, pour la finale.
OK, deux choses, parce que là, tu me nommes un paquet de villes, j'ai un petit peu de misère à les identifier sur la carte. Puis tu me parles aussi des billets, là, il y a des rondes pour acheter les billets. Alors, deux questions. La première, c'est-tu vrai qu'il faut s'hypothéquer une maison pour s'acheter des billets pour aller à la Coupe du Monde? C'est-tu si cher que ça? Et comment tu circules d'une ville à l'autre? Parce que c'est grand, Russie, quand même.
C'est vraiment bien organisé. Les volontaires dans les stations de train parlent majoritairement anglais. La sécurité, moins, mais la Russie a facilité les déplacements. Ils sont gratuits entre les villes quand on a des billets pour les matchs. Donc, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont pris des billets pour des matchs qui, un peu comme nous, on était à Rostov, on avait un match Uruguay-Arabie. On n'est pas fan des deux équipes, mais ça nous permettait d'avoir les trains gratuits entre Sochi et Volgograd. Okay. Et pour 100 $, voir un match, 105 $ US.
Okay.
Mais qu'est-ce qui est très important aussi à spécifier, c'est que le visa russe est vraiment difficile à obtenir en temps normal. Par contre, pendant la Coupe du Monde, lorsqu'on a un billet, on met notre photo sur un site Internet, il nous donne un fan ID qu'on appelle, et à ce moment-là, on peut rentrer et sortir de la Russie autant qu'on veut pendant un mois et demi, jusqu'à 10 jours avant et 10 jours après la Coupe du Monde. Donc moi, j'ai rencontré des gens qui vont même pas au match, qui ont acheté des billets, qui ont pris leur fan ID, et ils voulaient voyager à travers la Russie. Donc, on peut rentrer à l'est, à Vladivostok, si on veut, qui est à 8 000 km de où il y a le plus proche match. Mm-hmm. Et puis, à ce moment-là, on peut rentrer comme on veut en Russie. C'est très, très facile. Contrairement à moi, je l'ai fait avec un visa proprement dit, où il faut s'enregistrer à l'immigration dans chaque ville où qu'on va. Et c'est beaucoup, c'est très cher. On parle d'environ 150 à 200 $ pour plusieurs entrées-sorties, tandis que là, c'est tout à fait gratuit. Et les transports sont gratuits en plus.
OK, parce que moi, j'ai un ami qui était allé en Russie. C'était pour étudier en plus, fait qu'on s'attendait à ce que ce soit pas trop compliqué. Puis écoute, aux douanes, là, c'était bien difficile. Ça avait été long. Il posait toute une série de questions. C'est-tu quelque chose auquel toi, tu as dû faire face?
Ben, je suis le seul à qui c'est arrivé. Un peu hasard du destin, c'est que plusieurs personnes volent en Russie vers les villes où il y a des matchs, puis c'est tout à fait normal, ou traversent la frontière à l'ouest avec l'enclave de Kaliningrad ou vers la Lituanie, ou rentrent par les Pays-Baltes ou la Finlande vers la Russie. Moi, je suis rentré par la Géorgie,
okay,
par voie terrestre, et puis ils avaient jamais vu le fan ID en question. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont fait attendre à la frontière. Et puis, ils m'ont pris dans un bureau d'immigration avec... il fallait que ça soit absolument un officier, parlait seulement russe. Mm-hmm. Oh. Et puis là, à la place de se demander avec le fan ID qu'est-ce qu'on fait, ben ils ont rempli le questionnaire au complet que normalement, on remplit lorsqu'on applique pour un visa russe, on le remplit dans le confort de notre salon. Et bien là, j'ai rempli dans le confort d'un bureau d'un officier à la frontière russo-géorgienne.
Dans une salle d'interrogatoire.
Ah oui, mais il est super sympathique, le monsieur, mais tu sais, il commence sa conversation en me disant, ben moi, je parle pas anglais, tu parles pas vraiment russe, c'est le problème à qui? Mais bon, ça commence bien.
Oh.
C'était une heure là de questions sur toute ma famille, leur emploi, leur adresse, leur numéro de téléphone, sur mon emploi à moi, mes études, sur est-ce que j'ai travaillé dans une organisation non lucrative qui a été dans des conflits de guerre, est-ce que j'ai travaillé dans l'armée, des choses comme ça, est-ce que j'ai des personnes proches de moi qui ont été dans les services secrets, des choses comme ça.
Mais toi, tu parles pas russe, puis lui, parle pas anglais, comme vous avez fait.
Je me débrouille en russe.
Ah, OK.
J'ai appris un peu, je suis content, j'ai été en Asie centrale, j'ai pris 2-3 semaines de cours pour le plaisir, puis ça m'a aidé quand même, ça aide jusqu'à maintenant. Ça surtout dans les endroits reculés comme la frontière russo-géorgienne.
Là, parle-moi un peu de la Coupe du Monde, parce que la Russie, c'est le plus grand pays du monde. Il y a des matchs dans toutes les grandes villes. Est-ce qu'on le sent en Russie que c'est la Coupe du Monde en ce moment, dans les rues, là, dans le quotidien, ou pas tellement, parce que ça se perd dans le vaste territoire?
La Russie, c'est vraiment... Lorsqu'ils ont eu la Coupe du Monde, ils l'ont eu en même temps que le Qatar. Et puis, c'était un peu à l'époque aussi des Jeux olympiques de Sochi. Donc, oui, il y a eu de la corruption, il y a eu beaucoup d'argent. Mais la Russie reste historiquement un pays de football. Reste vraiment un pays de soccer. Premier récipient d'or de l'Euro. Seul gardien de but avec un ballon d'or qui est le meilleur joueur au monde. Mmh. Donc, la Ligue russe reste au point de vue européen. Ils ont des bonnes équipes. Puis les Russes sont vraiment à 100% dans la Coupe du Monde, vraiment à 100%. Par contre, ça l'a peut-être, il y a moins d'étrangers. Ça dépend des équipes. Là, en ce moment, on est à Rostov. Les Mexicains ont joué hier. Les Mexicains sont environ 45 000 à avoir fait le voyage. Les Belges, qu'on était à Belgique-Panama, on parle environ de 4 à 5 000 qui ont fait le voyage. Okay. Donc, c'est une grande différence. Je vous dirais que les pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, le Panama ont beaucoup fait le voyage. Peut-être parce qu'ils ont une grande diaspora aussi. Mais ils ont beaucoup fait le voyage. Beaucoup de Mexicains, mais les pays d'Europe, un peu plus réticents jusqu'à maintenant. Pour comparer à l'Euro, l'atmosphère autour des stades n'est peut-être pas aussi festive, mais les Russes sont vraiment là. Il y a 4 catégories de billets pour les matchs, et puis le 4e était réservé à la Russie. Il fallait avoir un passeport russe. Okay. Donc, ils payaient environ l'équivalent de 18 $ pour un billet que nous, on paye 105. Donc, ils ont vraiment... Et puis aussi, ils ont les transports gratuits. Donc, nous, on a fait des transports avec des Russes dans le train. Puis, ça fait... Mais ils sont très fiers de leur équipe parce que Premier match, ils ont fait un 5-0 contre l'Arabie.
Ben oui.
Bon, pas grande opposition, mais après, ils ont réussi à faire un 3-1 contre l'Égypte. Donc, ils sont qualifiés. Donc, pour eux, c'est un mondial réussi. Faut dire aussi que la Russie, en ce moment, une des équipes sur papier les plus faibles qui ont jamais aligné pour une compétition dans les dernières années. C'est pas très, très fort, mais jusqu'à maintenant, le collectif va bien puis la nation est vraiment, vraiment fière.
Et Maxime, à savoir, parce que j'ai regardé quelques matchs à la télévision puis il y avait l'air quand même d'avoir beaucoup de gens qui sont dans les stades et tout. Le Canada, il faut le mentionner, n'est pas là à la Coupe du monde de soccer. À quel pays tu t'identifies directement?
J'ai beaucoup d'amis en Belgique. Puis la Belgique a une génération qu'on dit dorée. On dit souvent que c'est des cycles. Puis on l'a vu hier, on fait un beau spectacle contre la Tunisie. Ouais. Donc j'aimerais que la Belgique aille loin, mais on a aussi des billets pour la France. Ayant été en France pour l'Euro, j'ai suivi la France quelques matchs. Ça a été une belle atmosphère. Donc si la France passe première de son groupe, chose qui devrait arriver, on a le huitième. S'il gagne, on a le quart. S'il gagne, on a la demi de la France. Et puis, on souhaite un France-Belgique en demi-finale pour que nos cœurs soient un peu déchirés, mais qu'on ait un beau spectacle entre deux pays limitrophes.
Maxime, merci d'avoir pris du temps pour nous. Je sais pas quelle heure il est chez vous avec le décalage horaire, mais on va te laisser.
Il est 2h30 l'après-midi, donc on est en pleine journée.
Bon.
C'est pas trop difficile.
Ben, merci d'avoir pris du temps pour nous, puis bonne Coupe du Monde, Maxime.
Merci à vous, puis je vous souhaite à tout le monde une excellente Saint-Jean, un Zapoy qui est un terme festif en russe.
Ah.
Donc, une excellente Saint-Jean à tous les amoureux du Québec.
Bon, ben, Zapoy, mon chum. OK, bye.
Merci, au revoir.
Maxime Veillette, un jeune homme de Limoilou, fan de soccer, en direct de la Russie.